Je suis sur la ligne avec Erica Gutt. Erica est une organisatrice communautaire et une membre d'une voix pour Haïti. Erica, bienvenue à Radio Personnalité Légale.
Bonjour, bonjour.
Erica, tu es quelqu'un qui est sur le terrain ici à Montréal, quelqu'un avec famille en Haïti. Vous avez une perspective vraiment sur le front de qu'est-ce qui se passe. Et je voudrais demander, pourquoi créer le groupe Une Voix pour Haïti? C'était quoi la motivation pour ça?
Ben, moi et mes amis, on a créé ce groupe-là parce que on voulait faire quelque chose de concret pour aider Haïti et nos familles aussi. On le sait que toutes les familles haïtiennes ou presque envoient régulièrement de l'argent à leur famille, mais on s'est dit c'est pas suffisant, on peut pas juste envoyer de l'argent à notre famille. De toute façon, quand les choses sont arrivées, c'était impossible de faire ça. Fait qu'on voulait faire quelque chose qui pouvait toucher toute une communauté au complet. Alors on s'est mis à la recherche d'un organisme haïtien. On voulait vraiment que ce soit un organisme haïtien qui profite de ce qu'on pouvait leur apporter. Pas un ONG, pas comme la Croix-Rouge ou Oxfam ou tout ça, pas parce qu'on est contre eux, mais parce qu'on pense que les Haïtiens doivent s'entraider en eux-mêmes. Alors, si on donne à un organisme haïtien qui travaille dans une communauté, on pense que l'aide va arriver plus directement. Et en parlant avec nos familles et avec des gens qu'on sait qu'ils ont été dernièrement, effectivement, l'aide envoyée par l'argent envoyé à la Croix-Rouge et tout, il y en a beaucoup qui disent que c'est pas bien distribué l'aide, qu'il y a beaucoup de gaspillage, que il y a maintenant il y a une bonne partie de la nourriture qui leur a été envoyée qui est restée tellement longtemps dans les ports et que c'est pourri et qu'ils peuvent même pas l'utiliser. Alors on pense que si dès le début ces organismes-là avaient travaillé avec des organismes haïtiens, que ce serait plus, que la distribution se serait faite plus effectivement. Alors, nous, on n'est pas encore allés sur le terrain. On a l'intention d'y aller, mais c'est ça. On est juste un groupe d'amis et on n'est pas des experts ou quoi que ce soit. C'est seulement qu'on a été touchés par qu'est-ce qui s'est passé parce que on venait juste... En plus, moi, je venais juste d'y aller en décembre 2009. Puis, ça nous a vraiment touchés puis on a décidé de faire quelque chose. Moi, présentement, mon oncle, il vit... dans un camp de déplacés à Port-au-Prince, proche du Palais national. Et il ne peut pas rentrer dans sa maison parce que sa maison n'est pas sécuritaire. Alors je me demande combien de temps ces gens-là vont rester là. Il y en a qui parlent de reconstruction, mais la reconstruction, ce n'est pas pour maintenant. Il faut savoir comment on va déplacer ces gens-là puis pour pouvoir reconstruire. Mais ces gens-là, en attendant, ils mangent quoi? Ils font quoi? Ils restent là dans la rue toute la journée à attendre que l'aide arrive. Et il y en a beaucoup qui disent que l'aide ne leur est pas arrivée. Alors, c'est pour ça que nous, on a décidé de s'impliquer.
Erica, Montréal joue un rôle spécial vis-à-vis Haïti. Vous venez d'écrire un aspect de ça, c'est-à-dire il y a beaucoup de connexions directes avec Haïti. Alors, vous, Une Voix pour Haïti, vous êtes en train de développer les liens d'entraide. Mais Montréal est aussi le site, par exemple, au fin de janvier, quelques semaines après le tremblement de terre en Haïti, d'une conférence de donateurs et tout ça. Mm-hmm. Est-ce que vous avez une critique vis-à-vis le rôle joué par le gouvernement québécois, le gouvernement canadien, les grands ONG, etc., vis-à-vis Haïti, parce que c'est clair que, dans un côté, il y a des gens directement affectés, des gens avec des liens familiales, amicales en Haïti, mais en même temps, c'est comme une industrie Haïti maintenant. Oui, alors, je voudrais savoir votre critique comme groupe ou comme individuel vis-à-vis le rôle spécifique du Canada, Québec, Montréal et Haïti.
Oui, dans le sens que, oui, on a une critique, mais moi j'ai une critique, c'est que nous, on est des payeurs de taxes, on est impliqués dans notre communauté ici à Montréal, on travaille fort, il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont quitté leur pays et qui sont venus travailler ici, il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont ici, mais qui sont sans papier, qui ne sont pas ni résidents permanents, ni citoyens, et qui attendent une régularisation de leur statut. Tous ces gens-là payent des taxes, mais là, quand on demande de l'aide, quand on a demandé de pouvoir faire entrer des membres de nos familles ici, ça a pris beaucoup de temps jusqu'à ce moment donné, on a eu l'impression que l'urgence d'agir vite, là, il faut agir tout de suite, il y a des vies en péril, ben, ça a passé, tu sais, c'est comme un mois plus tard, c'est là qu'on nous dit qu'il y aura peut-être 3000 personnes qui vont pouvoir rentrer par le programme de résidence de, comment on dit ça, parrainage, et ça a pris trop de temps, le temps de réaction a été trop long. Je pense que on est une grosse communauté, économiquement on est important quand même. Je peux pas comme vous confirmer les chiffres et tout ça là parce que j'ai pas ça. Moi je me fie à ce que je vois, à ce que je sens, à ce que je comprends. C'est une question de gros bon sens. On demande d'être appuyé, on demande une aide. Mais les gens, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils nous ont dit de faire, c'est d'envoyer notre argent à la Croix-Rouge. Puis la Croix-Rouge, elle, on peut pas lui demander des comptes de comment elle dépense notre argent, puis où l'argent va, puis qu'est-ce qu'elle fait avec. Tu sais, la Croix-Rouge, elle est indépendante. Elle fait qu'est-ce qu'elle veut. Elle peut prendre la moitié de ce qu'on lui a donné, le dépenser pour Haïti, puis l'autre moitié, elle fait qu'est-ce qu'elle veut avec. Et c'est ce qui est... nous, on voit ça comme un problème, parce que nous, on a donné de l'argent pour Haïti, pour aider Haïti. On n'a pas donné de l'argent pour d'autres choses. Puis, le gouvernement a pris une position, surtout le gouvernement canadien, s'est juste replié, caché derrière la décision de Jean Charest et quand ils ont annoncé qu'ils allaient changer la définition de la famille pour permettre à plus de gens de rentrer. Mais 3 000 sur 3 millions de sinistrés, on trouve que c'est rien. Et puis, il n'y a pas moyen, on ne peut pas faire plus, on ne peut pas creuser la question, on ne peut pas voir si on peut les déplacer temporairement, on ne peut pas voir comment on peut aider dans d'autres choses. J'ai l'impression qu'on a juste fermé la porte pour toute discussion sur ça. Puis, c'est ça. Là, il y a eu... la conférence des donateurs, et puis on s'est dit oui, mais pourquoi exclure, pourquoi plein de gens se réunissent pour parler de qu'est-ce qu'ils vont faire pour Haïti et le peuple haïtien, la diaspora haïtienne qui est elle-même directement impliquée et qui donne je ne sais pas combien de milliards d'argent par année en Haïti. Pourquoi eux, ils ne sont pas au milieu de la table de concertation. Et il faut nous impliquer, il faut impliquer les Haïtiens. On ne peut pas juste réunir des dirigeants de pays sans... On veut pas que... Dans le fond, on ne veut pas que les gens profitent de la situation pour ne pas, à la fin, ne pas faire bénéficier le peuple haïtien directement. Puis ça s'est déjà vu par le passé. Et on ne veut pas que ça se répète.
Erika, la lutte aujourd'hui pour qu'il y ait une vraie autodétermination des Haïtiens et Haïtiennes, c'est enraciné de l'histoire d'Haïti. Le fait que Haïti, c'est la première place aux Amériques où l'esclavage était aboli. Et c'était aboli pas par un ordre d'un gouvernement ou par une reine ou par un roi, mais par les actions d'Haïtiens eux-mêmes. Mm-hmm. Et ça me semble que... l'histoire d'Haïti vis-à-vis les pouvoirs coloniaux, c'est toujours basé sur le fait que l'Haïti était toujours désobéyant vis-à-vis cette attitude. Est-ce que vous avez des réflexions sur ça quand vous voyez comment les choses passent aujourd'hui après le tremblement, l'histoire haïtienne, l'importance de qu'on sache ça? Parce que c'est clair que pour les non-haïtiens, surtout dans le média de masse, on n'a pas beaucoup d'infos sur l'histoire riche de la liberté des Haïtiens.
Oui. Depuis le début, là, je me rappelle, CNN, les nouvelles partout, ils disaient tout le temps « Haïti, le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord, blablabla. » Mais il disait jamais comment le pays est devenu pauvre. Qu'est-ce qui l'a rendu pauvre à ce point-là? Qu'est-ce qui l'a appauvri? Et moi, pour moi, c'est clair que le fait qu'on a pris notre indépendance, on a été puni pour ça, parce qu'il y a eu les Français, quand on les a foutus dehors, ils ont voulu nous faire payer pour la perte des esclaves, et, parce qu'ils ont perdu les esclaves dans le fond. Alors, ils ont voulu nous faire payer pour ça. Ils se sont mis avec les Américains. Ils se sont entendus ensemble pour nous faire un embargo et nous bloquer. C'est comme nous empêcher d'échanger économiquement, d'exporter nos produits. Et dans le fond, avec les années, ça nous a complètement détruits. En plus, ils nous ont fait payer une genre de peine pour avoir... pris notre indépendance, ils nous ont punis, ils nous ont étouffés, puis à la fin, je pense que on a fini de payer aux États-Unis, à la France, on a fini de payer en 1947, je crois. Puis aujourd'hui, je sais qu'en 2004, Aristide avait évalué que si on se faisait rembourser cet argent, comme une réparation pour le tort que nous, on a subi, on recevrait autour de 21 billions de dollars. Et si on recevait cet argent, imaginez tout ce qu'on pourrait faire. Mais Aristide a demandé ça, et pas longtemps après, il s'est fait kidnapper et envoyé en Afrique du Sud. Puis les gens font juste voir qu'on est pauvre, puis que c'est de notre faute parce qu'on veut pas se débrouiller. Il y a même Patrick Lagacé qui a dit qu'on est passif, on n'est pas capable, on s'est mis là-dedans tout seul, on s'est mis dans notre misère nous-mêmes. Et mais il ne parle jamais de ce côté-là, de ce qu'on a subi, parce qu'on était la première république noire, on était les premiers esclaves libres de nous-mêmes, alors qu'aux États-Unis, il y avait des esclaves et à travers l'Afrique, et qui était colonisée, et les Antilles, on était les premiers. Et là, si les autres savaient ça, ben, ils avaient peur que ça fasse une révolution, si les autres esclaves apprenaient cette nouvelle-là. Fait qu'ils ont étouffé cette histoire-là. Et en plus, ils nous ont fait payer pour avoir osé prendre notre liberté.
Erica, ma question finale, c'est comment... les gens ici à Montréal qui voudraient aider vos efforts pourraient le faire?
Nous, Une Voix pour Haïti organise une fois par mois des soirées pour rassembler les gens. On veut que les gens se commémorent les événements du 12, mais aussi parlent, échangent sur les différents projets qu'ils ont pour Haïti. On aimerait que tous les gens qui ont des projets pour aider des organismes haïtiens aider à apporter des choses là-bas, toutes sortes de choses pour comme des vivres, des tentes ou quoi que ce soit. On voudrait que tous les gens viennent échanger, réseauter, s'échanger leurs coordonnées, s'entraider. Et tous ceux qui se demandent qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour aider peuvent venir aux soirées du 12. C'est à chaque 12, ça va être à la Perle retrouvée pour l'instant. C'est pas encore confirmé qu'à chaque 12, ça va être la Perle retrouvée. C'est ça notre petit problème. Mais à date, on dit que c'est à chaque 12 à la Perle retrouvée. On sait que la Perle retrouvée, c'est le seul centre culturel haïtien au pays. Et c'est ça. Alors, c'est comme l'endroit privilégié là pour les Haïtiens de se rencontrer. Puis ça va être à 19h à chaque 12. Et on va commémorer et on va échanger sur tous nos projets et comment on voit la reconstruction et tout ça.
Erica Gout, membre d'Une Voix pour Haïti, merci pour parler avec nous sur Radio Personnes Illégales.
Merci beaucoup à vous de m'avoir invitée.